Quand on leur demande quels sont les traits d'image qui correspondent le mieux au président de la République, ce sont des traits d'image qui sont négatifs, autoritaires, arrogants, méprisants, pas sympathiques.
Le Conseil constitutionnel a validé, pour l'essentiel, la loi sur nos retraites, et je l'ai donc logiquement promulguée.
On n'en veut pas de ta retraite, qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? On n'en veut pas!
La leçon que j'en tire, c'est un, l'ordre, l'ordre, l'ordre.
Je vis pas de regret, moi. Je vis de volonté.
Je veux que on ait... Dès la sixième de cette année, qu'on commence à avoir des élèves qui plantent des arbres.
T'as planté quoi, toi, là? Ah non, t'as mis le chêne. C'est planté, viens. Mets l'érable.
7 décembre et la vie est belle. Le vin chaud, les fêtes, la surconsommation, les oncles racistes, les guerres, le 49-3 du budget.
Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024. Je vous remercie.
Nous sommes désormais à plus de 20 49.3 utilisés par ce gouvernement pour faire adopter ces mesures et ça ne risque pas de s'arrêter. On vous avait dit le mois dernier qu'on verrait cette fois-ci le budget en détail, comment il est adopté, etc. Mais puisque vous n'avez quasiment pas regardé la vidéo sur Bercy, on s'est dit qu'il valait mieux la faire courte, vu que ça n'intéressait pas tant que ça. Et si jamais ça vous intéressait, mais que vous n'aviez juste pas vu passer la dernière vidéo sur le budget, courez vous abonner à la chaîne de Blast et activez la cloche. Comme on l'a dit la dernière fois, le budget, c'est ce grand tableau Excel de l'argent de l'État. D'un côté, il y a les entrées, les impôts, les cotisations sociales, les amendes, etc. De l'autre, les sorties, les salaires des fonctionnaires, les achats de matériel, les investissements sociaux, etc. Le budget, ça ne se présente pas sous un jour très sexy. C'est un peu comme si les maths les plus chiantes rencontraient les juristes les plus chiants. C'est pas écrit par un juriste, ce programme ? Si, si, je vous laisse imaginer la vie au quotidien. Eh bien, les maths et les juristes relous, mélangés ensemble, ça fait les finances publiques. Cauchemar ! Mais en vérité, un budget, derrière sa forme comptable et incompréhensible, ce sont surtout les grandes options politiques du pays. Autrement dit, combien de millions pour les canons à eau et combien de centimes pour les hôpitaux ? Par exemple, vous saviez-vous que le gouvernement voulait exempter la FIFA de payer toute forme d'impôt en France, y compris pour ses employés ? Ah, quand même ! Alors, tous les groupes d'opposition au Sénat ont fait barrage à la mesure. Et pourtant, il y a fort à parier qu'à la fin, la FIFA obtienne ce qu'elle veut. Comme on le sait déjà, le budget sera adopté par 49.3 et le gouvernement pourra y mettre ce qu'il veut sans que personne ne puisse y faire grand-chose. Car il n'y a même pas 289 députés dans ce pays pour arrêter la Macronie. Tant que Macron disposera d'une majorité relative, le budget continuera d'être adopté chaque année par 49.3, sauf si une motion de censure venait renverser le gouvernement. Pour rappel, ce n'est arrivé qu'une seule fois, et la seconde après, l'Assemblée était dissoute. Vive la 5ème République et ses contre-pouvoirs claqués au sol. Après un an et demi du second quinquennat Macron, il est peut-être temps de faire un point sur ces fameux contre-pouvoirs. Où sont-ils? Qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? Autrement dit, qui peut encore arrêter Macron?
Au boulot, là.
Arrêter Macron? On pourrait se dire assez spontanément que c'est le rôle du Parlement. L'Assemblée nationale et le Sénat ont pu, cette dernière année, infléchir les politiques macroniennes. Alors là, première nouvelle, il y a un effet de loupe sur les 49.3 répétés car ils donnent le sentiment de vivre dans une république bananière. Mais le gouvernement utilise le 49.3 surtout pour des textes financiers. Le budget n'est pas la seule activité législative de l'année. Il y a plein d'autres trucs. Et là, le gouvernement est obligé de composer avec les forces politiques en présence pour faire adopter ses projets. Force politique en présence, c'est un bien grand mot pour parler des républicains. Oui, on va pas se mentir, le gouvernement s'allie essentiellement avec la droite.
Surprise !
Tant que la droite est contente de ce que fait Macron, eh ben, la Macronie peut continuer comme bon lui chante.
Et cette semaine, on peut dire que la droite n'a pas été très contente de la Macronie. Alors d'abord, ils ont fait ouin-ouin.
Nous avons vu dans cet hémicycle se constituer une majorité pour défaire, détricoter savamment, tranquillement, le texte immigration voté par le Sénat. Cette majorité, un étrange attelage de la NUPES et de la majorité Renaissance, face à un gouvernement obstinément défavorable, pour reprendre les mots de Monsieur le garde des Sceaux, résolument, obstinément défavorable, ce sont vos mots, Monsieur Dupond-Moretti, je retire malheureusement ce texte.
Moi, je voulais vous dire, Monsieur Marleix, que c'est bien dommage. D'abord parce que nous avons montré notre ouverture. Aucune obstruction de notre part. Nous avons voté l'article. Non ? Je veux simplement dire, Monsieur Marleix, vous qui voulez absolument travailler avec la commission des lois du Sénat, je regrette qu'elle ne vous ait même pas suivi hier sur ce texte constitutionnel, ce qui montre bien qu'il n'était sans doute pas tout à fait abouti.
Darmanin a été si méprisant que les LR ont voté avec le reste des oppositions pour ne pas examiner le projet de loi immigration du gouvernement.
Voici le résultat du scrutin. Votants 548, exprimés 535, majorité 268 pour 270, contre 265. L'Assemblée nationale a adopté.
C'est un camouflet, la première fois qu'une motion de rejet préalable est adoptée sous la Ve République. Eh ben, il fallait pas chercher Marlex, hein, c'est sûr. Mais cette opposition des LR n'est que tactique et passagère. On l'a vu sur les retraites, ils ont soutenu le gouvernement. Idéologiquement, Renaissance et LR, c'est du pareil au même. Et les Républicains ne tarderont pas à se confondre de nouveau avec le gouvernement. Et sans le soutien de LR, le Parlement ne pourra guère s'opposer au gouvernement.
On a vu le manque de volonté d'opposition politique du Parlement avec le scandale tout récent de la Cour de justice de la République. Cet organe dérogatoire du droit commun crée une procédure et une justice spéciale pour les politiques. Normalement, quand vous êtes soupçonné d'avoir commis une infraction, vous passez devant un juge classique. Mais si vous avez commis ce délit ou ce crime en votre capacité de ministre, vous êtes jugé par 6 députés, 6 sénateurs et 3 juges ordinaires. Bref, les ministres sont jugés par leurs petits copains.
8 ministres et 3 secrétaires d'État ont déjà été jugés par l'institution. L'affaire la plus emblématique, celle du sang contaminé. 1999, Laurent Fabius, premier ministre à l'époque des faits, est relaxé. Son ex-secrétaire d'État, lui, est reconnu coupable, condamné mais dispensé de peine, tout comme Christine Lagarde en 2016, coupable de négligence pour sa gestion de l'arbitrage entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. La CJR, décriée pour la clémence de certains verdicts et la partialité des juges, symbole aussi pour certains d'une justice d'exception à 2 vitesses.
C'est sûr que les prévenus de droit commun, ils prennent pas le même tarif.
Tous les 4, ils sont prévenus d'avoir le 12 novembre 2011, à Vic-Fezensac, frauduleusement soustrait des bouteilles d'alcool au préjudice du responsable du supermarché Carrefour Market. Le tribunal les déclare chacun coupable des faits reprochés et les condamne chacun à 4 mois d'emprisonnement.
La première leçon que j'en tire, c'est l'ordre. Récemment, notre ministre de la Justice, l'avocat Éric Dupond-Moretti, a été relaxé des faits qui lui étaient reprochés devant la CJR. Les juges ont estimé que s'il y avait bien eu un conflit d'intérêts, il n'était pas établi que le ministre avait ordonné cette enquête pour se venger de 3 magistrats qui lui avaient causé du tort dans sa carrière d'avocat. Donc, relax. Ainsi, cette juridiction censée garantir la séparation des pouvoirs et éviter que les juges ne s'immiscent de trop dans la politique, finit par servir de machine à blanchir les ministres. Ceux-ci ne sont quasiment plus responsables pénalement de leurs actions. Ils entrent accusés et ressortent innocentés ou simplement admonestés, quelle que soit la réalité des faits qui leur sont reprochés.
Alors Madame la Première Ministre, allez-vous proposer un projet constitutionnel supprimant la Cour de justice de la République et comprenant la formation de jugement avec un jury populaire, car qui de mieux que le peuple pour juger celles et ceux qu'il représente, l'alignement des règles de nomination du parquet sur celles du siège ou encore le rattachement de la police judiciaire à la magistrature.
Au fond, le seul à pouvoir lâcher un ministre, c'est Macron. Enfin, Macron à travers Borne, puisque seule la Première ministre a juridiquement le droit de révoquer un membre du gouvernement. Le Parlement est ainsi largement impuissant à opposer une quelconque résistance effective au pouvoir présidentiel. Alors, peut-être faut-il se tourner vers les tribunaux, les vrais juges. Depuis quelques années, la juridiction administrative tient l'exécutif à des standards plus élevés qu'elle n'avait pu le faire auparavant. La juridiction administrative, ce sont les juges chargés de contrôler l'administration, c'est-à-dire le gouvernement, les préfets, les collectivités territoriales, les maires, les régions, etc. Récemment, le Conseil d'État a condamné l'État pour son inaction en matière de qualité de l'air. Dans son jugement sur l'affaire du siècle, le tribunal administratif de Paris reconnaît la responsabilité de l'État français dans la crise climatique et juge illégal le non-respect de ses engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'État est également reconnu responsable du préjudice écologique. Ok, mais concrètement, à part filer des pièces jaunes à quelques assos écolos, ça change air, hein ? Les juridictions, pour l'essentiel, ne font que ce que le droit leur dit de faire. Si la loi ou les traités internationaux obligeaient vraiment l'État à agir pour sauver la planète, le juge pourrait contraindre les politiques à faire davantage. Avec des si et des mais, on met Paris en bouteille. Et c'est là où le bât blesse. On peut bien espérer que les juges fassent quelque chose, qu'ils obligent l'État à agir davantage, mais si on ne leur donne pas le pouvoir de le faire, il ne se passera rien. On en revient toujours à la même conclusion en démocratie. À la fin, malgré les embûches, les contre-pouvoirs et les abus, le pouvoir reste un petit peu dans les mains du peuple. Et ben voilà, il n'y a qu'à crier « Révolte !» et on fait suffisamment flipper Macron comme il y a 5 ans et il arrête de se foutre de nous.
Les jeunes, c'est votre motion !
À où ? À où ? À où ?
la révolte populaire a bien entendu un attrait euphorisant. Le roman national nous donne même parfois l'impression qu'en une révolte, on pourrait mettre à bas les privilèges et rétablir un monde juste et équilibré. Mais le problème de la révolte, c'est qu'elle s'essouffle. Elle se lie à une cause passagère, comme le pouvoir d'achat, une taxe, une loi, une réforme sociale. C'est évidemment important de rappeler à ceux qui nous dirigent que le peuple existe toujours quand il n'est pas satisfait des options que ses gouvernants prennent pour lui. Mais ça ne suffit pas. Se révolter ponctuellement contre la réforme des retraites, sur les cadeaux fiscaux faits aux riches, sur les violences policières, ça ne suffit plus. Notre pays et notre monde sont à la croisée des chemins. Entre le technocapitalisme et la justice sociale et climatique, il est temps de décider. La révolte contre les figures du capitalisme et de l'abus politique ne suffit plus, car elle empêche de voir qu'un des éléments du problème, c'est nous, notre rapport au monde, notre façon d'appréhender la consommation, la nourriture, les loisirs, la culture. Et par ailleurs, cette idée qu'une bonne vieille révolte contre l'ordre établi et les puissants viendra tout remettre à plat et offrir une utopie, c'est précisément ce que cultive l'extrême droite pour s'emparer du pouvoir. Elle se targue de s'opposer aux institutions corrompues, mais se transforme en tentative de coup d'État du Capitole, par exemple. Elle dénonce le lobby LGBT, mais plie face à celui du patronat. L'extrême droite française n'est pas avare en promesses de lendemain qui chantent. Elle parle d'encadrer le capitalisme, de s'attaquer à la corruption politique et de lutter contre le réchauffement climatique. Mais on sait par leur vote au Parlement français ou européen que ces partis nient la réalité du changement climatique, promeuvent des politiques néolibérales et sont tout aussi corrompus que les autres, si ce n'est plus.
Marine Le Pen et le Rassemblement national face à la justice. La présidente du RN et 26 autres personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire dite des assistants parlementaires. Ils seront jugés pour détournement de fonds publics. Ils sont accusés d'avoir détourné des fonds de l'Union européenne pour rémunérer des assistants d'eurodéputés qui travaillaient en réalité pour leur parti.
Il y a zéro doute. Une révolte accaparée par l'extrême droite se ferait chienne de garde du système capitaliste écocidaire. Si le pouvoir est entre les mains du peuple et que le peuple a ses raisons, peut-être doit-il aujourd'hui faire la révolution dans son cœur. Vouloir changer pour que le monde change, pour que notre démocratie change. La révolution passera par l'instruction et le réveil de l'esprit critique des citoyens. C'est ce que nous essayons de vous proposer dans ce programme depuis 2 ans. Décrypter les enjeux électoraux, comprendre le pouvoir de telle ou telle institution, mesurer la place de concepts comme les droits de l'homme dans l'action publique. En 2024, nous continuerons ce travail en traitant des élections européennes à venir, ainsi que des petites pépites que nous prépare notre bien-aimé président. D'ici là, on vous souhaite de bonnes fêtes.
Madge, cessez de bouger, vous allez m'endommager les boules!
Allez! Je vous laisse avec une citation inspirante de celui qui fut toujours dans le camp des opprimés, qui tant de fois leur donna une voix, au Parlement et dans l'histoire. « Révolution est précisément l'inverse de révolte. Une révolution est un retour du factice au réel. Elle est parce qu'il faut qu'elle soit. » Victor Hugo, Les Misérables, partie 4, livre 1, chapitre 4.
Au boulot, là.